Bonjour Mathieu.
Bon vendredi Louis.
Et revenons un peu sur cette histoire de harcèlement chez Ubisoft. Là, dans la haute direction, on promet des changements, puis il y a une certaine reconnaissance aussi qu'on a peut-être été négligent au fil des ans.
Ouais, une lettre envoyée aux différents salariés de chez Ubisoft qu'on peut retrouver sur le site d'Ubisoft, c'est le PDG Yves Guillemot qui a promis un changement structurel, évidemment suite à ces histoires où on a accusé des cadres d'agression sexuelle, de harcèlement. On a vu plusieurs témoignages, notamment sur Twitter. C'était une situation qui était absolument inacceptable. Oui. Et ce qu'on peut lire notamment, c'est que les situations que certains et certaines d'entre vous ont vécues et dont vous avez été témoins sont inacceptables, dit-il. Je tiens à dire à ceux qui ont pris la parole ou qui ont soutenu des collègues, vous êtes entendus et vous contribuez à conduire les changements nécessaires au sein de l'entreprise. Ça sera des changements, dit-il, fondamentaux, très rapide et à tous les niveaux. Il a décidé de revoir la composition de différents départements et de transformer les processus de ressources humaines. Donc, un changement structurel au cœur et au sein d'Ubisoft qui sera entamé dans les plus brefs délais, c'est ce qu'on peut comprendre de la lettre qui a été publiée par le PDG d'Ubisoft.
Ben, tant mieux, tant mieux. Bon, là, YouTube constate les nouvelles habitudes d'écoute des gens. Il semble que la COVID a eu un effet sur la façon dont on consomme de l'information.
Oui. Non seulement sur le contenu qu'on consomme sur YouTube, mais sur l'écran sur lequel on consomme YouTube. Évidemment, oui. Quand on pense à YouTube, on a regardé ça sur notre téléphone, sur notre tablette, sur notre ordinateur. Mais ce qu'on apprend, c'est que 100 millions de personnes ont regardé YouTube sur leur téléviseur aux États-Unis à chaque mois, oui. Ce qui est quand même une immense progression. C'est-à-dire que depuis un bon bout de temps, Google, via sa plateforme YouTube, essaie justement de proposer la possibilité aux gens de regarder le contenu ailleurs que sur leurs appareils mobiles, c'est-à-dire que d'être capable de le regarder aussi à la maison. Donc, la durée de l'écoute de YouTube sur la télé a aussi augmenté de 80 % dans la dernière année. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que en mars, le temps d'écoute des événements qui étaient proposés en direct, soit des spectacles ou encore des prestations, a augmenté de 250% par rapport à mars dernier. On peut comprendre que les gens sont à la maison, voulaient avoir du nouveau divertissement et voulaient peut-être pas s'arracher les yeux, oui, sur un téléphone, regarder ça en famille. Donc, le faisaient de cette façon-là. Et attention, Louis, de la mi-mars jusqu'au mois de mai, il y a eu une augmentation du contenu lié au pain, au levain. Une augmentation de 400% sur YouTube. Donc, les gens allaient voir des tutoriels, oui, pour voir comment on pouvait fabriquer son pain au levain.
Mais moi, j'écoute beaucoup YouTube sur mon téléviseur intelligent à la maison. Je trouve que c'est bien fait parce que tu peux t'abonner, tu sais, à bon, différentes chaînes. J'ai des chaînes que je regarde de façon plus régulière, là, tout ça. Il y a un défaut que je trouve, par exemple, sur la façon dont fonctionne YouTube, c'est qu'ils vont te fournir du contenu en lien avec ce que tu as déjà consulté.
Ouais.
Alors, je trouve que ça te limite dans un certain type de sujet. Tu sais, au lieu d'avoir... si tu n'es pas abonné, mettons, t'enlèves ton user, si tu veux, là.
Ouais.
Donc, tu deviens comme n'importe qui sur YouTube. Mais là, tu as un contenu qui est vraiment très, 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 très large. Puis en fonction de ce que tu écoutes, le contenu va se raffiner pour se rapprocher de tes goûts. Mais je trouve que ça nous limite dans ce qu'on a écouté. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Je comprends parfaitement ce que tu veux dire et c'est extrêmement intéressant ce que tu notes là parce que c'est comme si ça concentrait tout le temps ton contenu vers, ouais, ce que tu as déjà aimé ou ce que tu as déjà, ouais, regardé, alors que c'est un problème. On devrait nous offrir une pluralité de choix.
C'est ça.
Et être audacieux dans ce qu'on nous propose. Ouais. Et ça, il y a de la musique en flux continu, des services de musique en flux continu qui vont y aller des fois de pièces plus audacieuses par rapport à ce que tu as déjà aimé.
Oui.
Et ça, je trouve ça très appréciable, mais tu as raison, oui, que l'algorithme qui fait de la proposition n'est pas exactement comme il devrait, oui, être si tu veux t'exposer, oui, à différentes vidéos, justement.
Alors, si par exemple, je vais donner une idée là, pour illustrer, là. J'aime beaucoup, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sailing Project Atticus. C'est un gars et une fille, deux Américains qui font le tour du monde en voilier et puis ils nous racontent leurs histoires. Tu as une nouvelle vidéo qui dure à peu près 20 minutes à tous les jeudis. C'est vraiment bien fait, c'est intéressant, etc. Mais si tu l'écoutes, ben là, après ça, tu as à peu près toutes les autres chaînes semblables où il y a des gens qui font le tour du monde en bateau là, qui arrivent. Puis là, tes propositions sont inondées de ça. Alors, tu sais, ça vient un peu tannant parce qu'à un moment donné, tu veux. C'est bien beau, là, mais je veux. Tu sais, on peut-tu penser à autre chose aussi?
Oui, tout à fait. Alors, là, c'est un tutoriel. C'est un tutoriel de nœud de bateau.
Voilà.
Là,
ça, c'est... J'espère que les gens de YouTube qui écoutent l'émission vont en prendre bonne note.
Oui, j'ai texté.
Mariage de taille entre télé et jeux vidéo.
Et ça, c'est une nouvelle énorme dans le monde du jeu vidéo. Et je vais essayer de mettre tout en place pour que les gens comprennent bien. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Fallout, qui est un bijou de jeu. Il y a des fans partout sur la planète. Et là, on a appris hier que Amazon Prime Video allait développer une série à partir de ce jeu-là. On ne connaît rien encore de l'intrigue, mais l'excellente nouvelle, c'est que le projet va être supervisé par le créateur du jeu vidéo, parce que je t'en ai déjà parlé, Louis, mais télé et jeux vidéo, film et jeux vidéo, ça fait rarement bon ménage. Mm-hmm. Et si on reprend l'intrigue et l'histoire de Fallout et qu'on transpose ça en télésérie, ça va bien marcher. Parce que Fallout, ce que ça fait, c'est comme une espèce de... un genre de rétro-futurisme où on a vécu un passé alternatif, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, où on a développé le nucléaire, eh bien, la civilisation humaine s'est concentrée autour du nucléaire et c'est comme ça qu'on a fait des avancées technologiques et non pas par les microprocesseurs. Donc, c'est super intéressant et le jeu, il est vraiment bien fait et il nous met bien en contexte. Je te fais entendre un extrait qui nous explique justement le bonheur de l'après-Deuxième Guerre mondiale.
Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables.
Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est comme si on était en 2077, mais figé avec le visuel des années 60. Évidemment, le jeu vidéo n'est pas un jeu vidéo de bonheur et de tendresse. La ressource nucléaire vient à manquer. Il y a une guerre qui éclate. Il y a ensuite des bombes et des accidents nucléaires qui arrivent. Je te fais entendre un autre extrait du jeu vidéo toujours.
Très peu survécurent au désastre. Certains eurent plus de chance que d'autres et parvinrent à se réfugier dans d'immenses abris souterrains. Quand l'obscurité totale fut passée, ces abris s'ouvrirent, libérant ainsi leurs habitants qui allaient devoir reconstruire leur vie.
C'est science-fiction.
Post-apocalyptique. Il y a des gens qui ont vécu des années dans des bunkers. Il y a même des générations qui sont nées sous terre. Mais il y a quand même des villages ou des villes qui ont réussi à survivre à la bombe nucléaire. Écoute, je te le dis, c'est super riche. Et aujourd'hui, un jeu vidéo, c'est aussi et bien souvent un scénario extrêmement bien ficelé puis une histoire intéressante.
Bon, on va terminer rapidement avec Samsung qui aurait publié par erreur des images de son prochain téléphone.
Et ouais, ben Samsung, Apple, LG, Sony, à chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone, ça fait partie du folklore d'essayer d'avoir, de savoir où sont les fuites, à quoi ressemblera le prochain appareil. Ça se demandait si c'est pas un coup marketing. Le Galaxy Note 20 Ultra, qui serait brièvement apparu sur le site officiel de Samsung Ukraine, dans une espèce de fond d'écran. Donc, c'est ce fameux téléphone, le Note, ça, qui vient avec un stylet, qui est extrêmement populaire pour certains types d'utilisation. Moi, je me suis régalé cette année à faire du montage vidéo avec ça. Ça m'a grandement facilité la vie. La gamme Note était morte et enterrée quand ils ont eu des problèmes de batterie qui explosaient avec le Galaxy Note 7. Mais force est d'admettre que des années plus tard, ça fonctionne toujours. Donc, on a vu apparaître le téléphone sur le site de Samsung Ukraine. Mais je te le dis, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas hasard, genre un peu voulu? Est-ce que c'est pas une fuite, ça? Est-ce que la personne n'a pas laissé un téléphone traîner pour que, justement, des geeks le prennent en photo et publient par la suite? Là?
Écoute, je mettrais un vieux vin là-dessus.
Oh là là! L'inflation a changé l'expression.
Oui, exactement. Salut, Mathieu. Merci
beaucoup. Bon week-end.
À lundi.